after this, we're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down. We're going to walk down anyone you want, but I think right here, we're going to walk down to the Capitol. And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not going to be cheering so much for some of them. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
Ouf, je m'habitue pas à entendre cet extrait-là. On va revenir donc évidemment sur les événements disgracieux qui se sont produits hier à Washington avec notre ami, notre collègue Raphaël Jacob de la chaire Raoul d'Endurance. Salut Raphaël.
Salut messieurs.
Tantôt, on a fait entendre la vidéo de Donald Trump où il disait que bon, il fallait qu'ils retournent chez eux, ces gens-là, qu'ils étaient spéciaux, qu'ils les aimaient. Mais je voulais qu'on revienne à la base de ça et de t'entendre, d'avoir ton point de vue sur à quel point c'est grave ce que Donald Trump a fait en prononçant ces mots-là hier lors de son discours devant la Maison-Blanche.
Tu me demandes à quel point c'est grave. Tu as évoqué le mot disgracieux. Il y a bien des choses disgracieuses de la personne Donald Trump et de la présidence Donald Trump, surtout dans les deux derniers mois. Hier, ce qu'on a eu, je te dirais, ça baignait dans le criminel, là, potentiellement.
Oh,
fait que je pense qu'il faut appeler un chat un chat.
Wow.
Quand vous et moi, on s'est parlé plus tôt cette semaine, tu sais, on dirait que ça fait 3 siècles, là, mais ça fait 48 heures, là, de l'appel de Donald Trump pendant la fin de semaine au secrétaire d'État de la Géorgie. Quand il lui demandait, en fait, il faisait plus que lui demander, là, quand il le harcelait pour qu'il renverse les résultats d'élection dans son État, qu'il commette un crime fédéral, c'est-à-dire de la fraude électorale, on baignait aussi très probablement dans le criminel. Hier, et je ne vais pas prétendre jouer aux avocats là, criminalistes, mais lorsqu'on lit, ne serait-ce que de façon sommaire, les lois américaines sur ce qu'on appelle la sédition, là,
ouais,
ça ressemblait drôlement à ça hier. Parce que lorsque le président dit « marchons ensemble vers le Capitole », c'est pas quelque chose qui est lancé dans un vase clos. Là. Ça survient après des mois et des mois d'allégations de fraude électorale, surtout les deux derniers mois où là, c'est pas juste des allégations, ce sont des accusations comme quoi l'élection a été volée, et il exhorte ces milliers de manifestants qui étaient enragés à la base. Il faut réaliser le niveau d'agressivité qui était déjà présent. Il encourage à faire ça pas n'importe quel jour. C'était prévu d'avance. Tout ça était délibéré. C'était prévu depuis des semaines pour le 6 janvier. Pourquoi le 6 janvier? Pourquoi l'après-midi du 6 janvier? Parce qu'on savait pertinemment que c'était à ce moment-là que les élus américains des deux chambres du Congrès se réunissaient pour reconnaître les résultats du collège électoral. Et donc, même si, je vais aller même plus loin que ça, même si à la limite, on n'avait pas eu l'ampleur des débordements, là, c'est-à-dire fracasser des fenêtres, rentrer par effraction, bon, même si on n'avait pas eu tout ça, le simple fait d'aller marcher autour du Capitole et de mettre de la pression sur les élus pour qu'ils ne reconnaissent pas les résultats électoraux, il y a quelque chose de profondément grave là-dedans. Il n'est pas question là, de faire pression sur votre membre du Congrès, sur votre élu, pour qu'il rejette tel ou tel projet de loi. Là. Il n'est pas question de ça. Il est question de mettre de la pression sur les membres du Congrès pour qu'ils ne remplissent pas leur mandat constitutionnel de reconnaître les résultats d'une élection parfaitement légitime et démocratique. C'est ça.
C'est ça. Parce qu'à limite,
foncièrement grave.
Parce qu'à limite, on pourrait les défendre en disant, ah ben, avant qu'ils rentrent dans le Capitole, on va dire, ah ben, c'est une manifestation, ils ont le droit,
mais
il y a
ça,
un point.
C'est ça.
Mais le point n'est même pas légitime.
Exactement.
Il est là le problème.
Exactement.
L'autre affaire, Raphaël, tu parlais, bon, de la notion criminelle, là. L'autre affaire, c'est le fameux 25e amendement. Puis on sentait hier soir, on a suivi beaucoup ça hier sur les réseaux américains, puis il y a des réseaux qui rapportaient que Mike Pence et peut-être certains membres du cabinet, on parlait plus de certains membres du cabinet là, qui pourraient peut-être commencer à peut-être, oui, signer la fameuse lettre que ça prendrait là, de Mike Pence et des membres du cabinet pour le faire destituer. Mm-hmm. Est-ce que ça, il y a des chances que ça arrive? Puis la réalité, c'est qu'on approche du 20 janvier aussi.
Ouais.
Là.
Ben écoute, oui, il y a des chances que ça arrive. C'est-à-dire que hier, ce qu'on rapportait, c'est que là, c'était plus juste des rumeurs. Là. Ça fait 4 ans que ces rumeurs-là autour du 25e amendement. Le rappelons-le peut-être pour la petite histoire, pour les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que ça implique? Ben, ça implique que la majorité des membres du cabinet, donc là, on parle par exemple du secrétaire d'État, du secrétaire...
Son conseil des ministres, pour que les gens puissent se comprendre.
C'est
si
ça,
on fait le parallèle
si
avec ce qu'est la politique ici. Là.
Exact, ce serait l'équivalent. Donc, la majorité de ces membres-là s'entendent pour transférer le pouvoir du président au vice-président. Donc, de facto, Mike Pence deviendrait président jusqu'au 20 janvier. Bon. Là, donc, on évoquait, parce qu'on s'entend qu'on n'est pas, on n'était pas à une controverse près, là, avant hier, là, avec Donald Trump, on évoquait cette possibilité-là depuis longtemps. Mais ce qui a changé depuis hier soir, donc, c'est qu'on rapportait que là, il y avait vraiment des délibérations à l'interne, parmi même les membres du cabinet, là, donc les principaux intéressés. Maintenant, est-ce que ça va aller de l'avant? Il y a deux bémols à poser. Le premier, tu y as fait allusion, Jérôme, c'est le fait que là, dans 13 jours, c'est fini. Là. Dans 13 jours, il part de la Maison-Blanche. Donc, pourquoi faire ça alors qu'on est si près du départ? Bon, ça, c'est une considération. L'autre qui est plus importante, je dirais, c'est que la donne a quand même un petit peu changé depuis hier soir. C'est-à-dire que dans les premières heures ce matin, ce qu'on a eu, ça a été un communiqué. Vous allez sans doute me dire que ça vaut ce que ça vaut quand ça vient de Donald Trump, mais quand même, un communiqué du président comme quoi il allait partir le 20 janvier, il s'engageait à une transition ordonnée et que ceci était la fin de sa présidence. Bon, dans ce contexte-là, ça pourrait quand même peut-être freiner les ardeurs, disons, des membres les plus agressifs là, de son cabinet qui voudraient le mettre dehors là, d'ici au 20. Maintenant, l'autre possibilité, avant même que vous me posiez la question, c'est de le destituer par la bonne vieille façon traditionnelle. C'est-à-dire les deux chambres du Congrès, comme on avait eu là il y a à peu près un an. Là. Mais là, je pense qu'effectivement, la question devient aussi une de temps. Là. C'est-à-dire que ça se fait pas en claquant des doigts faire ça. Puis là, encore une fois, c'est fini dans 13 jours, cette présidence-là. Une fois que c'est dit, je boucle la boucle rapidement, l'avantage, entre guillemets, là, pour ceux qui veulent, si on veut, se protéger de Donald Trump, c'est que si on le destituait avec le Congrès, selon la Constitution américaine, c'est très, très clair. Là, un président qui a été destitué par le Congrès ne peut plus jamais se représenter. Fait que c'est pas juste qu'on mettrait fin à sa présidence en 2021. Oh. C'est qu'il n'y en aurait pas de retour possible, même en 2024. Okay. Ça aussi à considérer.
Je veux qu'on parle un instant de Mike Pence, parce que moi, même si j'aime pas particulièrement le personnage, j'ai beaucoup aimé son discours qu'il a fait à la réouverture de la Chambre hier soir aux alentours de 20h. Mais pour les gens qui suivent peut-être pas ça de manière aussi assidue, juste mettre en lumière à quel point Mike Pence, au cours des 4 dernières années, a été probablement un des plus fidèles alliés avec les Giuliani de ce monde, du président, et que là, il est carrément plus le bienvenu à la Maison-Blanche. Là. Il y a eu une coupure qui s'est faite dans les dernières heures et qui a culminé avec ce qui s'est passé au Capitole hier.
Tu sais, l'image que j'ai sortie depuis hier avec Mike Pence, c'est Shakespeare. C'est-à-dire que c'est... Il y a quelque chose de quand même assez dramatique là, dans la relation entre Trump et Pence, parce que t'as raison de le dire, même plus que Giuliani, parce que Giuliani n'est plus un élu. Là, Mike Pence va avoir été le politicien, l'élu le plus important à rester aussi intensément loyal à Donald Trump. Et ce qui est remarquable avec Pence, c'est que c'était mutuel. C'est ça, je pense, qu'il mettait dans une catégorie assez à part. C'est que il y a bien des gens qui ont essayé d'être loyaux à Donald Trump, puis qui se sont fait ridiculiser, se sont fait en fait souvent congédier par Trump, plusieurs membres du cabinet. Le lien entre Trump et Pence, alors que ce sont deux hommes, je pense, très profondément différents à la base, là, était remarquable pour ça. Et Mike Pence, depuis deux mois, et c'est pour ça que pour moi ça sort là, quasiment quelque chose de qui est digne d'un dramaturge, là, on ne savait pas où est-ce qu'il allait loger au final. Il recevait, surtout depuis les derniers jours, là, quand on savait que ça s'en venait, là, la journée du 6 janvier, la journée lors de laquelle il devait présider donc l'espèce de cérémonie de reconnaissance des résultats là, par le Congrès, ce qui allait donc céder à la pression de son boss, qui devenait de plus en plus intense, comme quoi il devrait essayer unilatéralement, même si c'est complètement absurde, d'empêcher la reconnaissance des résultats, ou est-ce qu'il allait, au contraire, tout simplement se ranger du côté de la Constitution américaine. Ben, à la 11e heure, à la dernière heure, Mike Pence a choisi son camp. Puis ce camp-là, c'était le camp de la démocratie américaine.
Ouais.
Et on a vu la réaction de Donald Trump, c'est-à-dire de s'en prendre de façon extrêmement vicieuse à son vice-président. Et effectivement, là, même cet ultime lien-là semble avoir été rompu. C'est vraiment quelque chose.
Là, ce que je trouve pernicieux aussi, Raphaël, c'est que, tu sais, hier, j'écoutais, bon, les Sean Hannity, les Tucker Carlson, les commentateurs de Fox News, certains élus républicains aussi qui ont trouvé une espèce de formule un peu pour défendre la position de Trump. C'est que eux autres, ils demandent une espèce de réforme là des scrutins aux États-Unis, une surveillance, une espèce de des changements, en tout cas, dans la façon de faire les votes aux États-Unis. On dirait qu'ils se sont trouvés une espèce de porte de sortie pour pas nécessairement défendre la théorie du complot puis de la fraude, mais de quand même entretenir ça un peu aussi.
Oui, ben attention, Jérôme, parce que ça, là, ce que tu évoques, là, ça n'a pas commencé hier. Ouais. Ça a commencé un peu avant hier. Mm-hmm. C'était l'espèce de thèse ou disons d'avenue qui était utilisée par des gens comme Ted Cruz là, pour justifier qu'on essaie de bloquer les résultats au Sénat. Donc, ça, je te dirais, c'est pas ce qu'on a eu comme réponse à hier soir. Mm-hmm. C'est ce qui a causé hier soir, ou plutôt hier après-midi.
Ouais.
Parce que, peut-être pas causé entièrement, mais disons qu'il a alimenté tout ce qu'on a eu comme débordement hier. Parce que ce que donc des senateurs comme Ted Cruz disaient, c'est on n'est pas contre nécessairement la reconnaissance des résultats. C'est juste que avant de donner notre seuil d'approbation, on pourrait-tu, s'il vous plaît, juste, vous savez, mettre un petit comité sur place d'urgence pendant 10 jours pour vraiment être sûr qu'il n'y a pas eu de fraude électorale. Hey, ça fait deux mois, là. Ça fait deux mois. Il y a eu combien de tribunaux fédéraux et d'États qui se sont penchés là-dessus? Doit-on le rappeler que l'équipe légale du président des États-Unis a eu toutes les opportunités inimaginables de présenter sa cause? Elle n'en a pas. Elle a été déboutée de façon unanime, de façon sommaire par la Cour suprême des États-Unis. Et ça, c'était après des dizaines de tribunaux inférieurs qui arrivaient aux mêmes conclusions. Et je me permets très rapidement, messieurs, d'ajouter ceci, parce que je suis comme plus capable d'entendre des partisans de Donald Trump à ce stade-ci encore dire « Ouais, ça se peut-tu qu'il y a eu de la fraude? Pourquoi est-ce qu'on se penche pas là-dessus? » Prenez pas ma parole. Prenez même pas la parole des juges qui ont, de façon essentiellement unanime, rendu des jugements contre l'équipe légale de Donald Trump. Prenez l'équipe légale de Donald Trump. Prenez ce qu'ils ont présenté eux-mêmes devant les tribunaux. Quand ils se retrouvent devant les tribunaux, ils admettent eux-mêmes de façon officielle, signée, que non, il n'y a pas eu de fraude massive qui a fait en sorte que Joe Biden a gagné les États qui étaient contestés. Donc, c'est assez, là. C'est assez.
J'aurais, je pense, encore 100 questions à te poser, Raphaël, mais si on y va assez rondement, là. Le dommage pour le Parti républicain, il y a des gens qui disent « Ah, il est en train de donner le pouvoir aux démocrates pour 40-50 ans. » Je trouve que c'est charrié, mais à moyen court, là, jusqu'à quel point ce qui se passe là, si t'es un apparatchik, un responsable du Parti républicain, tu te cognes la tête sur les murs.
Ben, premièrement, sans vouloir faire là, dans la politique crasse, je pense que la première considération, d'un point de vue là, purement stratégique, là, laissons de côté là, la nobilité de la défense de la démocratie, là, juste d'un point de vue purement partisan, là, ma première priorité, ce serait dans ce contexte-là, là, de m'assurer que ce parti-là tienne. C'est-à-dire, n'implose pas.
Ouais.
Parce que hier, on commençait à avoir des voix, notamment celle de Sarah Palin,
oui,
l'ex-gouverneur de l'Alaska, qui disait, là, c'est assez, faut lancer un troisième parti. Bon, moi, ma première, pas seulement ma crainte, mais disons, mon premier réflexe, encore une fois, d'un point de vue purement partisan, stratégique, ça serait de faire en sorte que on garde ce monde-là collé. Là, il y a des divisions très profondes. Là. On l'a vu, non pas seulement avant les débordements d'hier, mais je vous dirais, en fait, surtout après les débordements d'hier, quand, même après ce qu'on a vu, tout le grabuge, toute la disgrâce, tout le crime, en fait, qu'on a vu hier, quand même après ça, on avait encore des sénateurs, et doit-on le rappeler, c'est comme s'il y a personne dans les médias qui le soulignait ce matin, là, plus de 100 membres républicains de la Chambre des représentants qui ont quand même voté pour contester officiellement les résultats d'élection, là, ça vous montre qu'il y a un sacré schisme dans ce parti-là. Et que oui, Donald Trump est plus, disons, isolé ce matin, c'est assez clair, mais qu'il y a quand même encore des, non pas des millions, mais des dizaines de millions d'électeurs qui l'écoutent et qui le croient. Donc, ça serait vraiment ma priorité, faire en sorte que ça déborde pas au sein du parti à un point tel où on craint pour la survie du parti tel qu'il est présentement. Donc, c'est un parti qui date de plus de 150 ans. Ça, il ne va pas mourir du jour au lendemain. Sauf qu'en même temps, disons qu'il y a un travail de guérison là assez important. Et là, évidemment, on ne parle que du Parti républicain. On ne parle même pas de démocratie américaine.
Merci, Raphaël. On se reparle bientôt.
Good. Bye-bye.
Merci. Salut, Raphaël. Salut. Jacob de la chaire, Raoul d'Endurant. Jérôme, il reste qu'il y a des réponses qui devront être fournies sur le travail de la police. Fournies?
J'attends du fournies. J'ai peut-être les oreilles sales.
On devra répondre aux questions sur l'encadrement policier du Québec.
T'as entendu une chose que moi, Benji?
J'ai dit fournies.
Fournies.
Hein? Oui, c'est ma sœur. Je me run fournies.
C'est correct, ben non.
J'essaie de me justifier. L'encadrement policier au Capitole.
Ouais.
va falloir qu'on apporte des réponses. Là. Il y en avait donc même pas beaucoup de police. Ça a donc bien été facile de rentrer au Capitole.
Cassé à vite, hein, avec l'espèce de bouclier. Le bouclier. On a vu, écoute, on n'a pas tout le contexte encore, là. Mais tu sais, encore là, t'as raison, OK, je te donne 100% raison là-dessus, mais il y a beaucoup de ceux qui défendent Trump et les Trumpistes qui disent « Ah, mais la sécurité était où? » Ouais, OK, mais faut pas perdre le focus.
Ah non, absolument, ça fait 40 minutes qu'on le fait. Je fais juste dire que c'est vrai que on peut se questionner comment ça se fait qu'il était pas mieux préparé, justement, ça faisait des semaines qu'on savait qu'il était pour...
Ça faisait Ukraine, Estonie, tu sais, ça marche.
Et selon... quelques médias, il fallait que Pence demande des renforts.
Ouais, parce que Trump voulait pas trop.
C'est ça,
là.
C'est lui qui aurait demandé la garde nationale.
Ouais.
OK, 10h47, 25226, si vous voulez nous écrire. Vous êtes déjà nombreux à le faire. Continuez. On fait une pause, on revient.